Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité des laboratoires de Muse, Montpellier, université d'excellence. Il y a 12 000 ans, entre la Méditerranée et l'Euphrate, s'écrivaient les premières lignes d'une longue, très longue histoire, celle de la domestication du blé par l'homme. À partir de là, l'histoire de l'humanité et celle du blé resteront inextricablement liées, les mélanges de variétés se faisant au gré des échanges entre civilisations. Le Moyen-Âge voit se développer de nouvelles méthodes de culture, on agrandit les champs et au XVIe siècle, des régions comme la Beauce, la Brie ou la Haute-Auvergne sont déjà spécialisées dans la production de céréales. Il faut attendre néanmoins le XIXe siècle pour réellement parler de sélection avec les premiers travaux généalogiques sur le blé réalisés par Louis de Villemorin qui donneront naissance aux premières variétés de blé modernes, les variétés Villemorin. Bah oui, on ne peut pas être créatif sur tous les plans. C'est le cas de le dire, merci, on a remarqué ma blague. Le XXe siècle et l'après-guerre marqueront vraiment un tournant dans la culture de cette céréale composée de plus de 30 000 gènes et de 42 chromosomes. Plus que jamais, l'objectif s'inscrit en termes de rendement. En seulement 50 ans, la France triple son rendement en imposant les cultures monovariétales. Pourtant, depuis quelques années, l'agroécologie a permis de nuancer l'intérêt de ces cultures monovariétales. Notre invitée du jour est chercheuse à l'Institut AGAP pour amélioration génétique et adaptation des plantes tropicales et méditerranéennes. Elle nous présente ses travaux sur les performances des mélanges variétaux dans la culture du blé. Son étude a été publiée dans la revue New Phytologist le 26 janvier dernier. Hélène Fréville, bonjour.
Bonjour.
Et vous pourrez tout à fait prendre le temps de corriger les erreurs que j'ai dû faire dans mon lancement. Elle aussi cultive les épis, même s'ils ne sont pas blonds, à mes côtés pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot.
Bonjour.
Fallait trouver.
C'est pas facile.
En seconde partie d'émission, nous vous emmenons à l'IUT de Montpellier 7 sur l'atelier de technologie alimentaire. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56. 56.
Alors pour commencer, Hélène Fréville, donc on débute toujours cette interview par une question qui pose un petit peu les bases. Et l'agroécologie, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est ?
D'accord, donc ce n'est pas évident pour aussi nous chercheurs, puisqu'il y a plusieurs définitions à ce terme. Je vais en rester à la définition scientifique qui justifie les travaux que l'on mène. Donc l'agroécologie, c'est de mobiliser les interactions qui se passent de façon naturelle entre les organismes, de façon, pour nous en agriculture, à développer une agriculture plus durable, qui soit moins dépendante des intrants, donc que ce soit fertilisation avec des fertilisants de synthèse ou des pesticides par exemple. Donc l'idée est de mobiliser la diversité, soit d'espèces, soit de variétés, pour se passer d'une partie des intrants qui ont accompagné la révolution verte après la Seconde Guerre mondiale et qui ont fait qu'aujourd'hui, en sélection variétale, on a surtout développé des variétés qu'on appelle élites, qui sont très performantes, qui produisent beaucoup, mais dans des milieux très manipulés par l'homme. L'homme contrôle l'environnement au maximum. Il ne peut pas contrôler le climat, mais au moins, dans ce qu'il donne comme ressource à la plante, il y a une artificialisation de l'environnement qui fait qu'on minimise les risques d'avoir des différences de rendement entre années selon les conditions climatiques.
Alors, pour revenir à votre étude plus précisément, vous avez testé des mélanges variétaux de blé. Pourquoi est-ce que c'est le blé que vous avez choisi ?
Alors, pour faire le lien avec l'introduction, nous, on travaille sur le blé dur. C'est une espèce encore un petit peu différente du blé tendre dont vous avez parlé. Le blé tendre, c'est une des céréales majeures qu'on utilise et qui est très cultivée en France, qui sert à la production de farine. Donc, la particularité du blé tendre, comme son nom l'indique, c'est qu'elle a des grains qui sont faciles à casser, à moudre. Notre espèce d'intérêt dans mon unité, c'est le blé dur, qui a des grains durs, et qu'on utilise pour fabriquer la semoule et les pâtes. En termes de surface de culture, en France, cette espèce est beaucoup moins développée. Elle est notamment cultivée sur tout le pourtour méditerranéen, notamment en Afrique du Nord. Donc pour nous, le blé dur, c'est une espèce modèle dont la sortie de nos recherches peut s'appliquer à un grand nombre d'espèces. C'est l'idée de cultiver des mélanges, c'est de mieux gérer les bioagresseurs des cultures et puis de réduire la fertilisation, donc en ce qui concerne le blé dur, dans le cycle de vie de la plante, pour arriver à produire une bonne qualité de grain qui est nécessaire à la transformation par l'homme. On est obligé d'apporter de l'azote plusieurs fois dans le cycle de vie. Et cet azote qu'on apporte, en fait, il est en partie mobilisé par la plante, mais également, il repart dans l'environnement parce que la plante n'a pas réussi à mobiliser cet azote. Et donc, il y a un coût pour l'environnement qui est important. Donc, notre idée, c'est d'arriver à développer, en mobilisant cette diversité de variétés, des modes de culture qui sont moins dépendants de la fertilisation et des pesticides, et donc réduire le coût environnemental et économique aussi des cultures.
Alors, je vous ai vu juste tiquer pendant mon lancement, donc on va y revenir maintenant. Je me suis trompée sur le nombre de chromosomes, c'est ça ?
Non, non. Le blé dur a une histoire qui lui est propre. Le blé tendre est arrivé ensuite par hybridation entre le blé dur et une autre espèce. Et du coup, le blé dur, il a que, entre parenthèses, 28 chromosomes. Et donc, il a un génome un peu particulier. C'est ce qu'on appelle une espèce allo-tétraploïne, c'est-à-dire que son génome est constitué de deux génomes indépendants qu'on appelle A et B dans notre jargon. Chaque génome est issu d'une espèce particulière avec une hybridation entre deux espèces qui a donné ce blé dur qu'on utilise aujourd'hui.
Très bien. Alors, donc, on va parler. Donc, vous avez déjà lancé le sujet. On va parler de variétés et notamment donc de monovariétés. Je l'ai dit en introduction. C'est la monovariété qui s'est imposée jusque-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On comprend plus ou moins, mais.
Alors, en fait, une variété qu'on appelle élite aujourd'hui, qui est mise sur le marché, est une plante qui est homogène au niveau génétique sur l'ensemble de son génome. C'est-à-dire que elle n'a pas de diversité. Pour chaque région du génome qu'on considère, elle a exactement la même information génétique sur l'ensemble de ces régions-là. La notion de variété peut prendre des acceptions différentes. Donc, chez certaines espèces, les variétés ont encore de la diversité génétique intraplante. Chez le blé dur, aujourd'hui, ce qu'on cultive, c'est des champs dans lesquels on a un seul génotype qui est complètement fixé sur l'ensemble de son génome, c'est-à-dire qu'on n'a pas de diversité intraplante pour chaque région du génome que l'on considère. Et donc, dans le champ, vous allez trouver des petits clones sur des dizaines de milliers de
D'accord,
plantes.
D'accord, donc c'est ça,
donc
c'est des petits clones.
Donc, il n'y a pas du tout de diversité génétique dans la parcelle, que ce soit intraplante ou entreplante, puisque les plantes sont toutes identiques au niveau génétique.
Alors justement, vous parlez pas de monovariété, mais de mélange variétaux dans votre étude. Et que sont les avantages des mélanges de variétés par rapport à ces cultures monovariétales que vous décrivez comme plein de petits clones qu'on retrouverait dans un champ ?
Alors les avantages, on essaye de mieux les comprendre. C'est un objet de recherche en soi. La culture de la mobilisation de la diversité en agriculture, vous l'avez mentionné en introduction, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire de l'homme. On a cultivé de la diversité de tout temps. Et par contre, après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à développer des systèmes de culture dans lesquels on a perdu de la diversité, que ce soit en espèces qu'on cultive aujourd'hui ou en variétés, intra-espèces. Et donc, il y a le regain pour les mélanges variétaux. Je dirais que en agronomie, il a commencé dans les années 60 parce qu'on avait des gros problèmes de régulation des pathogènes. Et on s'est rendu compte, en fait, que si on mélangeait des variétés qui étaient différentes sur l'information génétique qu'elles portaient à ce qu'on appelle des gènes de résistance majeure à ces pathogènes, en fait, on arrivait à mieux contrôler ces bioagresseurs et donc à moins dépendre des pesticides. Même si on utilise des pesticides aujourd'hui, il faut savoir que la durée de vie d'une variété qu'on met sur le marché, qui est cultivée, est de l'ordre de 6 à 7 ans. Au bout de 6 à 7 ans, le pathogène a ce qu'on appelle contourné la résistance et on est donc obligé de mettre sur le marché des nouvelles variétés qui soient capables de résister aux pathogènes en question.
Et là, on dit ça pour le blé, parce que votre étude porte sur le blé, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut extrapoler à d'autres types de cultures ou à d'autres céréales ? C'est la même chose ?
Tout à fait. En fait, en France aujourd'hui, on s'intéresse au mélange essentiellement sur le blé tendre et le blé dur. On peut appliquer cela au colza également. Il n'y a pas de restriction. On peut même élargir le système à des systèmes de type multi-espèces. Donc ça peut être cultiver des céréales avec des légumineuses. Et encore plus loin dans les systèmes qu'on peut développer, c'est tout ce qui est basé sur l'agroforesterie, où là, on va utiliser des arbres en co-culture avec des céréales annuelles, par exemple, comme le blé.
Alors, vous avez travaillé dans cette étude sur 200 mélanges binaires, donc on imagine que c'est deux variétés, c'est ça ?
Exactement.
Donc, vous avez mesuré la productivité et la sensibilité à une maladie du blé en particulier, la septoriose. Donc, vous nous avez dit que ce n'était pas votre spécialité, mais justement, est-ce que vous pouvez nous toucher un mot
Alors,
de cette maladie ?
La septoriose, c'est une maladie majeure qui est causée par un champignon, donc une maladie fongique, qui entraîne des nécroses des feuilles et qui va donc impacter fortement le rendement parce que la plante perd sa capacité photosynthétique. Et donc, dans cette étude, on a bénéficié d'un partenariat avec une autre unité sur Montpellier qui s'appelle FIM, pour Plant Health Institute of Montpellier, qui est basée à Baillargues, qui a de fortes compétences en pathologie. Et donc, c'est un peu l'intérêt des travaux qu'on développe, c'est d'arriver à faire de la multidisciplinarité pour réussir à agréger des compétences en génétique, qui est plutôt notre domaine dans AGAP et puis dans mon équipe en particulier, G2POP, et des compétences en pathologie, en agronomie, etc.
Alors justement, vous parlez de génétique, c'est ça qui est quand même totalement novateur dans vos travaux. Vous avez proposé une approche basée sur l'information génétique des composantes des mélanges de variétés. C'est-à-dire que vous avez analysé quoi exactement ?
Alors en fait, là, on s'intéresse à la composition en termes d'allèles de chaque variété.
Une allèle, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est ?
Alors en fait, c'est un allèle.
Un allèle.
donc ça va être les différentes versions de la séquence de base nucléique qu'on va trouver à un locus donné. Un locus étant un emplacement physique donné sur un chromosome. Et donc, pour revenir sur sur l'homme, parce qu'on connaît mieux, à chaque région de notre génome, on a un allèle qui est hérité de notre mère et un allèle qui est hérité de notre père. Ces deux allèles peuvent porter exactement la même information génétique parce qu'ils ont la même séquence nucléique, mais il se peut également qu'ils portent une information génétique différente. Et c'est à ce niveau-là qu'on a regardé, nous, sur le blé, dans quelle mesure avoir des allèles différents sur des régions génomiques qu'on ciblait, entraîne une meilleure performance des mélanges ou au contraire une moins bonne performance des mélanges.
Et ça, ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent ?
Alors, ça a été fait récemment, donc en 2020, sur Arabidopsis thaliana, qui est notre espèce fétiche en génétique végétale, mais ça n'avait jamais été fait sur des espèces d'intérêt agronomique.
Alors, on a dit que c'était très novateur, cette approche. Comment on s'y prenait avant pour savoir si un mélange de variétés allait être performant ou non ?
Alors, en fait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y avait une approche génétique basée sur l'identité des allèles à des gènes de résistance majeure. Donc, ça a été développé depuis une cinquantaine d'années. Et puis après, une approche plus à l'aveugle, où on fait des essais-erreurs, où on essaye de voir comment, en mélangeant des variétés qui diffèrent sur certaines caractéristiques de type hauteur de plante, date de floraison, on arrive à obtenir une meilleure performance ou pas. Donc c'est l'idée de comprendre ce qui se passe en termes d'interaction entre plantes dans des mélanges, c'est vraiment un fond de recherche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses en agronomie ou même en écologie, dont sont tirées une partie des théories qu'on teste aujourd'hui. On a fait beaucoup de choses. On a constaté que dans certains cas, de mettre de la diversité, donc cultiver différentes variétés, fait que l'écosystème ou l'agrosystème produit plus et plus résistant aux maladies. Mais également, on a observé les patrons inverses, qui est que la diversité peut être néfaste pour les objectifs qu'on cherche à cibler. Et donc, en moyenne, dans la littérature, on montre effectivement que mélanger des variétés augmente le rendement, permet de mieux résister aux maladies, mais ça ne reste qu'une moyenne. Et autour de cette moyenne, en fait, on a des situations dans lesquelles mélanger n'est pas une bonne idée, ou au contraire, mélanger est une très bonne idée. Et ce que nous, on cherche à savoir dans nos projets de recherche, c'est quels sont les mécanismes qui sont impliqués, qui font que ça peut mieux marcher ou au contraire moins bien marcher, et du coup, comment mobiliser ces mécanismes pour prédire la performance des mélanges de variétés et du coup partir sur des choses qui marchent.
Vos résultats, ils sont un peu contre-intuitifs, donc vous y attendiez à ça ou pas ?
Pas du tout, en fait, c'est ce qu'on aime en recherche, c'est de tomber sur des choses qui nous interpellent. Et du coup, au niveau génomique, dans les deux études que j'ai citées sur Arabidopsis thaliana, ils ont trouvé un effet positif de la diversité, donc du fait d'avoir des allèles différents entre les plantes, sur la production de biomasse d'Arabidopsis. Donc, et ça, c'est ce qu'on avance comme mécanisme, hein, issu des théories de l'écologie, c'est mettre de la diversité, ça a plein d'effets bénéfiques, et on a des mécanismes pour expliquer pourquoi. Le fait de trouver que, sur cette région génomique, mettre de la diversité impacte négativement la performance des mélanges est vraiment un résultat intrigant. On a quelques hypothèses à mettre sur la table pour expliquer cela, et notamment dans cette région qu'on a identifiée, on a décrit, enfin ça c'est des collègues qui l'ont fait, hein, on a 49 gènes qui sont connus pour être impliqués dans certaines fonctions, et parmi ces 49 gènes, on a un gène qui produit une substance qu'on appelle allélopathique. Alors l'allélopathie, c'est le fait qu'une plante excrète dans le milieu extérieur des substances chimiques qui vont avoir un effet sur les plantes voisines. Cet effet, il a surtout été étudié sous forme d'impact négatif. Donc une plante excrète des substances chimiques qui vont faire mourir la voisine. Mais il y a aussi des cas d'effets positifs. Et en fait, dans notre étude, une des explications possibles serait que ce gène qui produit des substances allélopathiques fait que quand vous êtes avec une plante qui a le même allèle à ce locus, et bien en fait, vous êtes capable de lui résister puisque vous êtes vous-même producteur de cette substance et donc c'est une substance qui ne vous fait pas de mal. Mais si vous êtes en voisinage avec une plante qui a un autre allèle que vous, cette plante va excréter d'autres substances chimiques auxquelles vous n'êtes pas adapté. Et du coup, peut affecter votre performance. Le lien avec la maladie, on ne le comprend pas encore. Et donc, ça fait l'objet d'autres projets de recherche qu'on développe avec l'unité FIM en ce moment.
Et donc, en plus de ces résultats-là, qui sont peu intuitifs et novateurs, comme vous l'avez dit, vous avez aussi quand même montré et confirmé ce que montre la littérature agronomique, qui dit que les mélanges sont en moyenne plus productifs et moins malades que les cultures monovariétales. Pourtant, on en a parlé tout à l'heure, les mélanges ne représentent encore que 12% des surfaces cultivées. S'ils sont finalement plus performants, pourquoi est-ce qu'ils sont si peu représentés ?
Alors en fait, on a en cours un gros projet de recherche qui s'appelle MobiDiv, pour mobiliser la diversité, qui s'intéresse à ces questions-là, à la fois au niveau biologique, économique et social. Il faut savoir que depuis 60 ans, on est dans une agriculture qui repose sur de la monovariété. Comme tout changement de pratique, on a des verrous à lever, qui soient d'ordre économique ou social. Et puis on a, nous, en tant que biologistes, aussi à mieux comprendre comment choisir ces variétés de façon à ce qu'elles fonctionnent bien ensemble. Donc il y a aujourd'hui, de conseiller un agriculteur, c'est compliqué, parce qu'en fait, on n'a pas les clés pour comprendre pourquoi dans certains cas ça marche bien et pourquoi dans d'autres ça ne marche pas. On l'a pour certains caractères, type résistance à des maladies sur des gènes de résistance majeure, comme je vous l'ai dit. Mais tout l'enjeu, là, c'est d'arriver à avoir des pluri-objectifs, c'est-à-dire qu'on ne veut pas seulement cibler, mieux réguler les pathogènes, mieux réguler les adventices qui peuvent faire de la compétition aux cultures, produire un meilleur rendement. Il faut arriver à faire du multi-objectif. Et en fait, dans ce cadre-là, aujourd'hui, on est peu armé pour réussir à comprendre et surtout prédire le fonctionnement de ces mélanges. Et donc, c'est vraiment un front de recherche aujourd'hui dans nos disciplines.
Donc on a dit seulement 12% donc des surfaces occupées par les mélanges de cultures. Donc c'est peu, mais c'est beaucoup quand on sait que donc c'était 1% seulement en 2007. Finalement, est-ce que c'est pas le retour de pratiques anciennes, ces diversités ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de revenir à quelque chose qui se faisait plus facilement avant ?
Tout à fait. En fait, l'agriculture, c'est toujours basé sur l'utilisation de la diversité. La notion de variété élite fixée sur l'ensemble du génome est très récente, à l'échelle de l'histoire évolutive des espèces cultivées. Et il faut d'ailleurs savoir que, dans mon unité, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur l'agriculture des pays du Sud. Et dans ces agricultures de type familial, on mobilise la diversité en cultivant plusieurs espèces, plusieurs variétés. Et donc, c'est effectivement un retour à des choses qu'on faisait déjà avant. Le changement aujourd'hui, c'est que c'est devenu un objet de recherche et qu'on a plein de défis à relever en tant que biologiste de l'évolution, écologue, etc., pour essayer de comprendre ces interactions entre variétés différentes ou entre espèces différentes, et puis mieux prédire ce qui se passe pour conseiller la filière.
Hélène Fréville, un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et de venir dans cette émission. L'interview est déjà finie, mais on passe maintenant à la seconde partie de notre émission. Et donc, Aline, tu nous as emmenés à l'IUT de Montpellier 7, à l'atelier de technologie alimentaire. C'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça, Lucie. Aujourd'hui, on va laver des poireaux, éplucher des pommes de terre, cuire du riz ou blanchir des pommes. Mais attention, ce n'est pas de la cuisine, c'est du génie des procédés. Et c'est Charles Cunot qui nous fait visiter cet atelier de technologie alimentaire.
Donc, je m'appelle Charles Cunot, je suis maître de conférences en génie des procédés alimentaires. J'enseigne plus particulièrement à Polytech Montpellier et je suis aussi directeur de l'atelier de technologie alimentaire. C'est une plateforme technologique de l'université et qui a un certain nombre de missions, notamment une mission de formation pour les étudiants, une mission aussi de recherche, donc avec les partenaires académiques, et aussi une mission auprès des industriels pour favoriser justement le transfert technologique.
On a une salle avec des paillasses à gauche, et à ma droite, il y a comme un grand hangar avec plein de bruit et plein de machines. Est-ce qu'on peut aller voir ?
Oui, bien sûr qu'on peut aller voir. Nous avons ici, effectivement, comme vous l'avez souligné, plusieurs échelles en fait. On a une échelle laboratoire, donc avec la partie un peu plus calme qui était de l'autre côté, sur lequel on a un certain nombre d'appareils de transformation à toute petite échelle, plus des appareils qui permettent la caractérisation des produits alimentaires qui sont fabriqués ici à l'ATA. Donc là, l'endroit où il y a du bruit, c'est la partie halle, où nous avons des équipements de taille semi-industrielle qui permettent de réaliser un certain nombre d'opérations unitaires de l'industrie agroalimentaire classique. Donc je pense qu'on peut en décrire quelques-unes si...
Sur la gauche, on a une espèce de grosse cuve en inox, en acier, une grosse cuve métallique qui ressemble, on hésitait tout à l'heure, entre un silo et une espèce de petite fusée. Qu'est-ce que c'est ça ? À quoi ça sert ?
Alors, ce matériel-là, c'est une tour d'atomisation ou atomiseur. Ça permet de faire un séchage pour obtenir des poudres à partir de liquide. Donc il faut avoir une certaine concentration en matière sèche et ça permet d'obtenir un produit sec derrière qu'on va pouvoir réhydrater et réutiliser pour d'autres applications. Par exemple, on pourrait très bien sécher du lait ainsi, ou on pourrait sécher un extrait végétal. Donc l'idée derrière, c'est de pouvoir le réhydrater. Nous avons par exemple eu aussi des essais industriels où ils ont voulu sécher des jus de fruits concentrés pour créer des poudres directement prêtes à l'emploi qu'on pourrait réhydrater en mettant de l'eau dedans.
Donc en gros, là, ça consiste à fabriquer éventuellement de nouveaux aliments ?
Tout à fait, oui. Alors, c'est déjà très utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Ça, voilà, ça fait partie vraiment des technologies de base. C'est pour ça qu'on en retrouve ici à l'ATA, pour pouvoir former nos étudiants à ce type de technologie. Maintenant, on peut tout à fait réaliser de nouveaux produits avec. On a eu dans les derniers essais, par exemple, des essais sur des micro-algues, avec des extraits de ces micro-algues qui étaient des produits qui sont vendus ensuite aux industriels.
Je me dirige vers là-bas parce qu'il y a un aspirateur qui a été branché qui fait aussi beaucoup de bruit.
Donc justement, lui, c'est l'évapoconcentrateur sous vide. Donc c'est une grosse machine qui a pour intérêt justement de pouvoir permettre une concentration du produit. Cette concentration du produit, elle est permise par l'évaporation du solvant. Donc le solvant ici, c'est de l'eau. D'évaporer l'eau à une température inférieure à celle qu'on aurait à pression atmosphérique. Parce que si vous avez déjà fait l'expérience chez vous de placer un jus de fruit quelconque et de le mettre à 100 degrés Celsius pour le faire évaporer dans une casserole, généralement il devient tout marron. Si c'est un produit coloré, on peut même avoir une altération des pigments et il a une structure, un aspect visuel complètement différent de ce qu'il avait à l'origine. L'intérêt ici, c'est qu'on va créer un vide partiel à l'intérieur de l'installation. Ce vide partiel va permettre de générer en fait une température d'évaporation inférieure à 100 degrés Celsius. Donc là, en fonction des paramètres qu'ils vont appliquer, ils peuvent évaporer le produit entre 55 et 65 degrés Celsius.
Tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'ai vu des étudiants qui étaient en train de d'éplucher des pommes de terre, des poireaux, des carottes, de faire la cuisine en gros.
On ne parle pas trop de cuisine, on va vraiment parler de génie des procédés. Parce que justement, l'objectif, c'est de montrer à nos étudiants que ce qu'ils font, ce n'est pas de la cuisine, c'est comment ils peuvent modifier les propriétés d'un produit initial en jouant sur des paramètres procédés qui vont être la température, la pression, le taux de cisaillement. Donc des choses très concrètes, très physiques et sur lesquelles ils vont pouvoir réaliser un certain nombre de calculs pour pouvoir dimensionner leurs opérations unitaires.
Donc là, on passe dans l'autre salle qui ressemble plutôt à une salle blanche avec des paillasses. Qu'est-ce qu'on fait ici ?
Alors, salle blanche, non, je dirais plutôt laboratoire. Donc on va trouver du matériel à dimension laboratoire dans lequel on va réaliser des opérations unitaires. Donc le matériel qu'on a, c'est beaucoup plus à échelle beaucoup plus réduite que ce qu'on peut avoir de l'autre côté. Par exemple, vous voyez le matériel qui est en train d'utiliser le jeune devant son téléphone, c'est une tour d'atomisation, donc c'est la même chose en modèle réduit que l'autre tour que vous avez vu de l'autre côté.
Et les étudiants qui sont là en train de manipuler, ils se destinent à quoi par exemple comme carrière ?
Ce sont des étudiants qui sont ici en IUT, de génie biologique et génie biologique, et donc ils se destinent à des parcours où ils vont travailler en agroalimentaire, donc ils ont des parcours de techniciens dans l'agroalimentaire. Ils peuvent aller ensuite vers des parcours laboratoires. Il y en a un certain nombre aussi qui se servent de cette formation comme d'un tremplin pour aller sur des formations d'ingénieurs pour accéder à des métiers du domaine de l'industrie agroalimentaire.
Alors on retourne dans la partie halle, c'est ça que vous comme ça que vous appelez dans la halle ?
Oui, c'est donc dans la partie halle, l'un des intérêts qu'on a ici aussi à l'ATA, c'est d'avoir beaucoup d'opérations, enfin de machines qui permettent de réaliser un certain nombre d'opérations unitaires, vraiment de pouvoir aller d'une matière première à un produit fini. Donc notamment dans les projets les plus récents qu'on a eus dernièrement, on est parti d'orge qu'on a fait germer pour pouvoir réaliser des maltes. Maltes donc qui ont été réalisées dans un sécheur tunnel, donc la machine qu'on voit là-bas. Donc c'est un sécheur qui est relativement récent ici et qu'on a dimensionné véritablement pour une finalité pédagogique et qui est en fait un sécheur à triple effet, c'est-à-dire que on peut le faire travailler de manière différente. Donc il y a une partie où on va pouvoir faire un séchage par léchage. Donc c'est l'un des séchages les plus classiques en industrie. On va faire circuler de l'air chaud tangentiellement au produit pour réaliser notre opération de séchage. On a aussi un séchage dit traversant avec un flux d'air qui va arriver par le dessus, au-dessus de notre produit. Et on a un séchage qui peut être traversant ou dit en lit fluidisé, où on va faire venir de l'air par le dessous. Donc on a réalisé nos maltes à l'intérieur de ce dispositif de séchage. Et ces maltes-là, on va pouvoir, dans d'autres opérations, comme par exemple le petit four qui est derrière, réaliser...
Le petit four, je précise, qui est quand même pas si petit que ça. Fait 1 mètre sur 1 mètre 50, c'est ça ?
Disons qu'à l'échelle industrielle, il est encore à peu près petit. C'est une échelle semi-industrielle. Donc qui nous permet d'avoir d'autres opérations sur le maltage, notamment aller jusqu'à la torréfaction de celui-ci pour passer de malt blond à des malts plus torréfiés, plus techniques. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir réaliser ces malts et aller jusqu'à l'opération de brassage pour réaliser de la bière avec, ici derrière, une micro-brasserie qui appartient à Polytech et qui est hébergée ici sur le site de l'ATA.
Donc on fait de la bière ici à l'IUT de Montpellier.
Alors, on en fait déjà à l'unité de Montpellier chez des collègues dans d'autres bâtiments, mais on en fait aussi directement à l'ATA. Là, disons que cette brasserie, elle appartient au club Polybière, donc c'est un club de Polytech qui réalise de la bière dans la finalité et effectivement de la boire. C'est soit une consommation directement du producteur au consommateur, en cercle fermé, Sinon, de temps en temps, ils vont aussi proposer leurs produits, par exemple lorsqu'on a les remises de diplômes, pour faire justement la promotion du savoir-faire qui est appris ici à l'université de Montpellier et notamment à Polytech.
Allume la science, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.